Bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis. Nous sommes dans le livre de Daniel et nous avons commencé à voir le songe de Daniel et aujourd'hui nous voulons voir l'interprétation. Donc c'est le chapitre 2. Je rappelle que le peuple d'Israël avait atteint tel niveau d'apostasie, d'idolâtrie que Dieu a été obligé de l'exiler à Babylone. Et Daniel et ses trois compagnons avec d'autres jeunes ont été amenés à Babylone. Ils ont suivi pendant 3 années la culture chaldéenne, les langues et tout cela pour pouvoir être au service du roi. Et alors qu'ils vivaient dans un monde païen et que le peuple d'Israël dans sa globalité s'était détourné de Dieu, un petit reste, Daniel et ses trois compagnons restaient attachés à Dieu. Et Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mets et le vin du roi. Et il trouva grâce aux yeux de Dieu, il trouvera grâce aussi aux yeux de l'eunuque, et Dieu leur donna à Daniel et à ses compagnons, on peut dire au verset 17, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes, la fidélité à Dieu, les convictions dans sa jeunesse qu'il avait acquises ont été utiles là, il s'est résolu à être fidèle à Dieu. Et on voit aussi au verset 20 du chapitre 1, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse, de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Daniel, encore vieillard, sera à Babylone, même alors même que le peuple sera retourné et fidèle à son Dieu, il va vraiment être un témoin pour lui dans une nation païenne. Et nous sommes là au chapitre 2. Je relirai le chapitre 2 jusqu'à la fin. Et nous verrons ce matin l'interprétation du rêve de Nebuchadnezzar, les versets 24 à 46. Je commence chapitre 2, verset 1. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, « J'ai eu un songe, mon esprit est agité, et je voudrais connaître ce songe. » Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, « Ô roi, vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs, et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, « La chose m'a échappé. Si vous ne faites pas connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi, dites-moi le songe et son explication. » Ils répondirent pour la seconde fois, « Que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit, « Je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps, parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi, dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. » Les Chaldéens répondirent au roi, « Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi, jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. » Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages allaient être mis à mort, et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjok, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjok, commandant du roi, « Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ?» Arjok exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et l'instruisit de cette affaire Anania, Miskaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie, je te loue, de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. » Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjok, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. « Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication. » Arjok conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. « J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. » Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belshazzar, « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication ?» Daniel répondit en présence du roi et dit « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens, les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle le secret et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et la vision que tu as eue sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. » Avant de poursuivre, je fais un petit résumé de ce qui est dit dans ces quelques versets. On voit d'abord que le roi Nebuchadnezzar a des rêves, et à la suite de ça, il menace de faire périr tous les sages. On voit au verset 1, « La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Et le songe l'a tellement perturbé qu'il n'arrive pas à trouver le sommeil. » Et on voit là que dès le début du règne de Nebuchadnezzar, la seconde année de son règne, Dieu cherche à parler à Nebuchadnezzar par des visions, et ces visions le troublent à un tel point qu'il n'arrive pas à dormir. Pour comprendre le message de Dieu, Nebuchadnezzar aura besoin de spécialistes, et en particulier Daniel, mais il va d'abord se tourner vers les spécialistes de Babylone, qu'on appelle les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens, au verset 2. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit « J'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. » Alors toutes ces personnes au service du roi et au service en particulier des puissances du mal prétendaient connaître l'avenir, prétendaient révéler les secrets, prétendaient pénétrer le monde invisible. Nous savons que Dieu interdit ces pratiques. On peut lire dans Deutéronome, chapitre 18, versets 10 à 12, et dans Lévitique, chapitre 19, 31, « Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Et on voit même que le mal avait gagné aussi Israël qui consultait les devins. Jérémie, chapitre 29, versets 8 à 9. De la même manière que ce mal prolifère aujourd'hui avec l'astrologie, avec les activités de voyance, avec la magie, l'occultisme, Dieu dit non à tout ça. On ne doit pas pratiquer ces choses. Et finalement, le roi Nebuchadnezzar va mettre ses devins à l'épreuve. Il va leur demander, pas seulement l'explication, mais à leur demander le contenu du rêve. Dites-moi le songe et son explication, à trois reprises. Et finalement, ces devins vont dire, mais c'est pas possible, c'est chose impossible alors. Et on peut lire ça au verset 10. Quand ils répondent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi, aussi jamais roi, quelque grand. et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Alors le roi se met dans une vive colère et projette de faire périr tous les devins du royaume de Babylone, Daniel aussi, Daniel et ses compagnons, alors que n'ont pas été consultés. Et c'est alors que Daniel va entrer en scène, versets 14 à 17. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et cette confusion, parce que le roi demande quelque chose de difficile, révéler son songe et dire son interprétation, cette confusion va permettre à Dieu de se révéler au roi par l'intermédiaire de Daniel. Et Daniel est préparé pour accomplir les desseins de Dieu. Alors on voit Daniel qui, verset 14, avec beaucoup de sagesse, alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjok, chef des sages du roi, pour demander un supplément d'informations parce qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe. Ensuite, il va aller voir le roi pour lui demander un temps pour pouvoir lui expliquer le songe, lui dire le songe et lui expliquer ce que ça signifie. Comment est-ce que Daniel peut avoir une telle assurance, être assuré de connaître et le songe et son interprétation? C'est la foi, mes amis. Daniel a placé sa foi en Dieu dès le départ. Il s'est été fidèle dans les petites choses. Il a résolu de ne pas se souiller par les mets du roi. Et Dieu l'a gardé, l'a protégé. Et Dieu a permis qu'il trouve grâce aux yeux du chef des eunuques et même aux yeux du roi. Et Dieu l'a béni, l'a richement béni de sagesse et de connaissance dans toutes les sciences. Alors, on voit enfin Daniel et ses compagnons, verset 18, jusqu'au verset 19, Daniel et ses compagnons qui vont se mettre en prière. Ils vont pas demander que Dieu change l'esprit du roi, parce qu'il agissait d'une façon irraisonnable. Ils vont plutôt implorer la miséricorde du Dieu des cieux. Il les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, verset 18, afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Et verset 19, nous avons cette belle révélation. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Dieu va répondre à Daniel au-delà de toutes ses attentes. Parce que non seulement Daniel va savoir le songe, l'interprétation du songe, mais aussi il va être élevé, lui et ses compagnons, à un haut degré de responsabilité. Là, nous lisons dans Éphésiens, chapitre 3, versets 20 à 21, « Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. » C'est un encouragement à prier, à persévérer dans la prière, parce que non seulement il nous a dit qu'il y a une puissance qui agit en nous, c'est l'Esprit de Dieu. Il nous conduit même dans nos faiblesses quand nous ne savons pas comment prier. Lui-même intercède par des soupirs inexprimables en nous. Et Dieu fait au-delà, infiniment au-delà, de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations au siècle des siècles. Alors que Dieu soit honoré aussi dans notre génération, en nous voyant prier avec foi et nous attendre à de grandes choses de sa part. Et dans une vision, Dieu va révéler à Daniel le songe du roi, son explication. Et donc nous voyons Daniel au verset 19 qui dit, la fin du verset 19, « Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. » Daniel commence à reconnaître, à prier, à bénir le Dieu des dieux, avant de se rendre chez le roi et lui dire « Voici ton songe et voici son explication. » Daniel prend un temps pour remercier le Seigneur de lui avoir révélé le songe. Voilà. Nous prions, mais prions aussi avec action de grâce. Prenons le temps de remercier Dieu pour ses bienfaits, pour les réponses à la prière. Il est le Dieu des cieux et le Dieu souverain. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui élève les rois, qui les abaisse. Il nous faut ici souligner la foi de Daniel. Il est adolescent quand il est à Babylone. il est dans les mains d'un monarque qui peut faire périr ou faire n'importe quoi avec n'importe qui. Mais Daniel reconnaît malgré tout que Dieu est souverain. Rien n'échappe à son contrôle. Il reconnaît que cette souveraineté s'étend sur toute la création et sur toutes les créatures, sur Daniel, sur ses compagnons, mais aussi sur ce roi, même si c'est un despote. Et pour nous, et il dit aussi que, au verset 22, il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Et même dans un temps d'épaisse ténèbres, comme on peut se trouver en ce moment ou dans les générations précédentes, quand le monde est bouleversé, Dieu n'est pas perdu, Dieu est notre boussole. Il est la lumière, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Voilà. Et puis, pour Daniel, Dieu n'est pas un Dieu seulement des cieux. C'est un Dieu aussi personnel, parce qu'au verset 23, il va parler à Dieu en disant « Dieu de mes pères ». Voilà, il y a une relation, une intimité entre lui et Dieu. « Je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné, la sagesse et la force, de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi ». Voilà, Dieu n'est pas un Dieu lointain, il n'est pas seulement le créateur du ciel et de la terre, c'est pas seulement le souverain, c'est pas seulement celui qui change le temps et les circonstances, il est aussi mon Dieu. Et David pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voilà. C'était le Dieu de Daniel, il lui parlait d'une façon personnelle. Et Daniel associe aussi ses trois compagnons dans cette affaire. Tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Alors, Daniel peut se rendre chez le roi et lui dire le songe et son interprétation. Mais il va commencer au verset 27 à confesser le fait que ce n'est pas possible à l'homme de révéler les secrets. Verset 27, Daniel répondit en présence du roi et dit « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. » Voilà, ce n'est pas possible à l'homme de révéler les secrets que divins. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Dieu veut que Nebuchadnezzar sache ce qui va se passer dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, au roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci, toujours l'avenir. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Daniel aurait pu saisir cette occasion pour dire, je suis sage, vous voyez, je sais, je connais le songe, tous tes experts là ne savent rien, moi, je le sais. Daniel s'est humilié et il a laissé plutôt la première place à Dieu. Voilà, il a dit, ce n'est pas moi, ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma sagesse, mais par la grâce de Dieu qui m'a révélé cela. Voilà. Il attribue toute la gloire à Dieu dans cette affaire, toute la sagesse à Dieu. Le courageux vieillard que va devenir Daniel dans le chapitre 6 n'est que le prolongement de ce jeune homme qui obéissait à Dieu jusque dans les moindres détails alimentaires. Il était résolu à être fidèle et humble. Et nous voilà maintenant à l'interprétation du songe. Alors, avec une entière confiance dans la révélation de Dieu, Daniel va d'abord faire une description du songe, versets 31 à 35. Il va ensuite en donner une explication précise et concise au roi, versets 36 à 45, et nous voyons enfin l'effet que cela va produire sur le grand monarque Nebuchadnezzar. Donc je lis, verset 31, « Ô roi, tu regardais, et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi, et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argent. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors, le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une mer en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, Tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. Puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne, sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Alors, le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel, et l'ordonna qu'on lui offre des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des cieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. » Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone, et établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Et Daniel était à la cour du roi. Donc voyons cette description précise du rêve du roi de Babylone, au verset 31 à 25. Le rêve consistait en une immense statue. Elle avait une splendeur extraordinaire, elle était debout, elle avait un aspect terrifiant. Et nous lisons au verset 32 que la tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain ou du bronze, c'est un mélange de cuivre et d'étain. Ses jambes de fer, ses pieds, une partie de fer et en partie d'argile. Et puis il se produit quelque chose d'étrange. Cette statue qui est debout, qui est d'une splendeur extraordinaire, va subir quelque chose. On voit une petite pierre qui ne sort de nulle part et qui vient taper les pieds d'argile, verset 34. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main. Ça nous montre que ça, c'est l'œuvre de Dieu. Frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Une pierre sortie de nulle part frappe les pieds de la statue. La statue entière s'écroule et elle est pulvérisée. Le vent emporte tout ça, le fer, l'argent, les reins, l'argile, et il ne reste plus aucune trace de cette statue. Cette statue semblait devoir résister au temps. Eh bien, elle n'a pas résisté à la petite pierre qui a frappé le pied. Et qu'advient-il de cette pierre? On voit plus tard, au verset 35 et suivant, que la pierre qui avait frappé la statue va devenir une grande montagne et qu'elle va remplir toute la terre. C'est ensuite que vient donc l'interprétation du rêve des versets 36 à 45. Quand on lit Daniel chapitre 2, quand on lit aussi Daniel chapitre 4, Daniel chapitre 7, Daniel chapitre 8, on se rend compte que ces quatre parties de la statue sont en fait quatre royaumes. Et donc, la tête d'or. Et Daniel va commencer à expliquer au verset 37, « Ô roi, c'est toi qui es la tête d'or. » Il dit, « Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire, et l'a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les habitants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. C'est le royaume de Babylone avec Nebuchadnezzar qui a la tête. Et Dieu, c'est Dieu qui lui a donné cet empire. Comme d'ailleurs il est souligné au verset 2 du chapitre 1, le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles. On peut regarder encore, c'est intéressant de lire ça, Jérémie, faites avec moi un petit saut dans Jérémie chapitre 27. Jérémie qui avait prédit ça. Jérémie chapitre 27 à partir du verset 6. Maintenant, Jérémie parle au peuple d'Israël, maintenant, bien avant la déportation, maintenant je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux des champs pour qu'il lui soit asservi. Toutes les nations lui seront soumises, à lui, à son fils et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive et que les nations puissantes et de grands rois l'asservissent. Et on voit même, c'était verset Jérémie 37, on va 37 verset 10, ce que Dieu dit, ce que Dieu prophétise, enfin c'est Jérémie qui le dit. Jérémie chapitre 37 verset 10. Et même quand vous battriez toute l'armée des Chaldéens qui vous font la guerre, quand il ne resterait d'eux que des hommes blessés, ils se relèveraient chacun dans sa tente et brûleraient cette ville par le feu. Voilà, Dieu a décidé de châtier son peuple. Nebuchadnezzar est son serviteur, il va lui soumettre tout, sans exception. Et en effet, le règne de Nebuchadnezzar était un règne glorieux, parce que Dieu l'avait choisi pour exécuter sa sentence. Il a fait des choses extraordinaires. On voit aussi que c'est un règne glorieux parce que Daniel et ses compagnons étaient au service du roi et ont permis que beaucoup de bonnes choses se fassent. Ils étaient là pour l'éclairer sur les voies de Dieu. On voit ensuite donc que d'abord donc l'empire babylonien c'est la tête d'or. Je reviens à Daniel. On voit ensuite que la poitrine et les bras d'argent qui étaient au verset 32, la deuxième partie du verset 32, représentent l'empire médo-perse. 539 avant Jésus-Christ. On lit au verset 39 à « Après toi, il s'élèvera un autre royaume. D'abord, l'empire babylonien, ensuite l'empire médo-perse, établi par Cyrus, le deuxième royaume. Et puis après, on voit, moins que le tien, et puis le ventre et les cuisses des reins, au verset 32c, représentent l'empire grec qui est fondé par Alexandre en 330 avant Jésus-Christ. Et nous lisons « Puis, un troisième royaume, verset 39, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Et enfin, vient le quatrième royaume qui était représenté par les jambes de fer, les pieds en partie d'argile, les pieds en partie de fer. Eh bien, ce quatrième royaume représente l'Empire romain. Et verset 40, nous pouvons lire, il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. Et on sait que l'Empire romain les soldats, ils étaient armés d'objets en fer parce que on peut pas combattre avec l'argent, les reins ou le bronze, c'est pas solide, il faut du fer. Et on voit, de même que le fer brise tout et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, le potier en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront avec des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Et donc ça nous parle du royaume romain, de l'Empire romain. On a des détails un peu plus tard, et si vous voulez en étude biblique, on va en parler un peu plus. Mais j'aimerais parler de cette petite pierre qui s'est détachée au verset 34, et Daniel va en donner l'explication au verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là, l'empire babylonien, l'empire médo-perse, l'empire grec, l'empire romain, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Voilà, alors que la statue, vous voyez que la qualité des matériaux diminue, d'abord l'or, ensuite l'argent, l'airain et le fer et l'argile. Eh bien, quand la pierre vient taper le pied, c'est toute la statue qui s'en va, et tout ça part en poussière, et vous voyez que l'ordre est inversé, verset 35. Alors le fer, l'argile, l'airain, devant Dieu, tout ça n'est plus rien. Disparu. Et qu'est-ce qui reste? Cette petite pierre qui va devenir un royaume qui va grandir. Eh bien, cette petite pierre, mes amis, c'est le royaume de Dieu. Ce n'est pas un royaume visible, on ne voit pas, il a commencé au temps de l'Empire romain. C'est un royaume spirituel. Et ce royaume, depuis son établissement, ne fait que grandir. Le Seigneur disait lui-même dans Jean chapitre 18, verset 36, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Le royaume de Dieu est un royaume spirituel. Le royaume de Dieu est au milieu de vous, nous lisons dans Luc chapitre 17, verset 21. Christ règne dans le cœur de tous les croyants. Il règne dans le cœur de tous ceux qui l'ont reçu par la foi. Il fait de tous ceux qui sont unis à lui par l'évangile des citoyens du royaume des cieux. Et ce royaume a commencé et il n'arrêtera pas. Il va grandir jusqu'à écraser tous les autres. Tous les autres ont disparu, mais le royaume de Dieu restera éternellement. Lisons Romains chapitre 1, versets 16 à 17. Romains, évangile. Romains chapitre 1, versets 16 à 17. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Si vous êtes enfant de Dieu, si vous avez reçu Christ par la foi, eh bien vous êtes enfant de Dieu, vous faites partie de ce royaume qui va en s'agrandissant. Bien sûr, la parole nous dit que quand on sème l'évangile, quand on sème la parole, seulement un seul grain sur quatre porte du fruit. Il y a un petit reste, mais ce reste-là, il va demeurer jusqu'à la fin. On peut lire aussi Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. À partir du verset 6, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Verset 7, il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant du monde, éclaire tout le monde. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, chez les juifs, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà, le royaume qui a commencé petit et qui va être comme une montagne qui va occuper tout l'espace et qui va évincer tous les autres. Alors, regardons l'effet de cette révélation sur notre roi, ce monarque, verset 46. Alors, le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Il ordonna qu'on lui offre des sacrifices et des parfums. Verset 47, le roi adressa la parole à Daniel et dit, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. » Le grand monarque qui tenait la vie de ses sujets entre ses mains, qui était prêt à faire périr tous les sages de Babylone, le voilà, une fois que Dieu, enfin que par l'intromise de Daniel, Dieu lui explique le songe, il est obligé de s'incliner. Et la volonté de Dieu, pour nous aussi, c'est que nous le connaissions, parce que il a fait connaître à Nebuchadnezzar l'avenir, mais ce n'était pas pour que Nebuchadnezzar sache en détail qui sont l'empire, qui est l'empire médo-perse, l'empire grec, l'empire romain. C'était pour que Nebuchadnezzar sache que Dieu est souverain et qu'il domine sur tous les hommes. Et que finalement, il fallait que Nebuchadnezzar apprenne à connaître Dieu. Et Dieu l'a fait. Et ça a, pour l'instant, porté des fruits, parce qu'on voit que il va s'incliner devant Daniel, non pas pour adorer Daniel, mais pour adorer, il reconnaît en Daniel le porte-parole de Dieu. Et il va tout de suite faire cette confession, verset 47, « Votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. » Et donc Nebuchadnezzar ne reconnaît pas pour l'instant que Dieu est le Dieu unique, parce qu'il parle des le Dieu des dieux, le Seigneur des rois. Mais il reconnaît l'omniscience de Dieu. Dieu sait tout. Dieu connaît les choses cachées que les hommes ne connaissent pas. Et Dieu le révèle à ceux qui le servent. Alors, et vous voyez après que Daniel va être élevé dans une position sociale importante. Et il sait que s'il doit servir Dieu, il ne faut pas qu'il ait trop de responsabilités. Donc il va partager avec ses trois compagnons, les responsabilités. Et donc, il n'est pas là pour lui-même. Il n'est pas là pour jouir de l'aisance et du pouvoir à Babylone. Il est là pour être un serviteur de Dieu, pour faire connaître Dieu à tous ces rois et toutes ces personnes. Qu'est-ce que ça peut être? Quel enseignement pouvons-nous tirer encore de ce chapitre 2? Tout d'abord, que la parole de Dieu est la vérité. Quand Dieu dit quelque chose, elle se réalise. Nous sommes à la fin des temps. Nous savons tous que l'Empire babylonien est passé, l'Empire médo-perse aussi, l'Empire grec, l'Empire romain. Nous savons que tout ça est passé, un empire envers un autre. Et nous savons aussi, parce que Jésus-Christ est venu, il est mort sur la croix pour nous, que le royaume de Dieu s'est manifesté et qu'il s'étend de plus en plus. Depuis l'époque du Seigneur, on voit que ce royaume s'étend, des hommes et des femmes se donnent au Seigneur. Et on peut se demander... Est-ce qu'on fait partie de ce royaume aujourd'hui? Tous les autres disparaîtront. Le royaume de Dieu seul demeurera. Il ne cesse de grandir, il n'aura pas de fin. Aucun autre royaume ne lui succédera. Et vous voyez, cette statue qui est d'or, d'argile, d'airain et de fer aussi, il n'y a pas quatre statues comme s'il y avait les quatre royaumes séparés. Tout ça, c'est la même chose. Ça nous parle de la gloire humaine. La gloire de l'homme qui va passer. Prenez avec moi 1 Pierre, chapitre 1. Pierre, chapitre 1. Ou verset 22. 1 Pierre, chapitre 1, verset 22. Où nous lisons. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe. Nebuchadnezzar, Cyrus, Alexandre le Grand, les Romains, Néron et compagnie. Toute chair est comme l'herbe. Et toute sa gloire, cette grande statue imposante, extraordinaire, toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Dieu veut se faire connaître à chacun de nous, par l'Évangile. Il veut faire de nous des citoyens de son royaume. Il le fait par la parole, la prédication de l'Évangile, mais derrière, c'est la parole vivante. C'est Jésus-Christ qui veut nous faire connaître comme sauveur. Donc la parole, ce que Dieu dit est vrai. Si les prophéties se sont accomplies, celles qui doivent s'accomplir s'accompliront certainement. Et donc ce livre de Daniel doit renouveler notre confiance dans le Seigneur, renouveler notre confiance dans la parole de Dieu. Nous devons toujours davantage être saisis d'admiration devant les grandes choses que Dieu a faites et qu'il va faire ensuite. Nous voyons aussi que Dieu dirige l'histoire. Ce ne sont pas les rois, aussi grands qu'ils aient été. Et le livre de Daniel a été écrit 600 ans avant Jésus-Christ. Et il révèle l'histoire exactement comme elle va se passer avant même qu'elle se déroule. Pourquoi ? Mais parce que c'est Dieu qui dirige l'histoire. C'est lui qui tire les ficelles. Il n'est pas doublé, n'est pas surpris par quoi que ce soit. Il peut prédire l'avenir parce que c'est lui qui la contrôle. Et Daniel 21 nous a dit que c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui abaisse et qui élève les rois. Voilà. Et enfin, une troisième chose et dernière, le royaume de Dieu est inébranlable. Nous n'avons pas à avoir de crainte sur cela. Christ a vaincu toutes les oppositions et les vaincra jusqu'à la fin. Les croyants ont été brûlés vifs. Ils ont été jetés aux bêtes sauvages. Ils ont été exilés comme Jean dans des lieux lointains. Ils ont été enfermés dans les cachots, torturés dans les prisons ou publiquement, mais rien n'empêche leur nombre d'augmenter. Alors que tous ces royaumes sont passés, le royaume de Dieu demeure inébranlable. Il finira par devenir une montagne qui remplira toute la terre. Apocalypse chapitre 5, verset 12. L'agneau est digne de recevoir la louange, la gloire. Voilà ce que chantent les rachetés dans le ciel. C'est un bonheur, frères et sœurs, d'appartenir à ce royaume. Mais c'est aussi un malheur d'y être exclu parce qu'on a refusé de se repentir et de croire. Alors, contribuons à l'avancée de ce royaume. N'hésitons pas à investir notre temps, notre énergie, notre argent, parce que c'est ce royaume-là qui durera éternel. Eh bien, voilà, je laisse cette parole et le Saint-Esprit dans les cœurs et nous demandons à Dieu qu'elle puisse avoir le même effet qu'elle a eu sur Nebuchadnezzar. Il n'est pas encore converti, mais il est en chemin. Eh bien, on va prier avant de chanter le cantique. Seigneur, nous te remercions pour ta parole et nous prions qu'elle fasse son effet dans nos cœurs, comme elle l'a fait dans le cœur de Nebuchadnezzar, ce monarque qui se croyait invincible, mais qui s'est humilié devant toi quand il a vu ta grandeur, ta puissance, ton omniscience aussi. Nous te prions, Seigneur, si ce Dieu païen qui n'avait pas toute cette révélation que nous avons aujourd'hui par la Bible et par l'histoire, nous te prions que nous soyons humbles et que nous puissions croire, avoir la foi dans la parole, avoir la foi dans ce Dieu et dans ce temps de trouble et dans tous les temps de trouble, que ta parole soit notre boussole. Donne-nous l'appétit pour elle, donne-nous la lire, de l'étudier, de la mettre en pratique pour que tu sois glorifié. En ton nom. Amen.